particulièrement heureuse de d'accueillir ici, au nom de l'Association pour le rayonnement de l'Ermitage, Madame Eliane Ventre et le Père Barcellini. Voilà. Alors, c'est un projet de bientôt 2 ans qui aboutit aujourd'hui. Donc, c'est vraiment très émouvant. Je les remercie beaucoup tous les deux d'avoir accepté cette proposition. Alors, Eliane Ventre est présidente de l'amitié judéo-chrétienne d'Annecy et pour Chambéry. Et elle vient d'être nommée trésorière au niveau national au comité directeur de l'amitié judéo-chrétienne de France. Et depuis 25 ou 30 ans, je ne sais pas exactement, elle travaille en bonne amitié avec le père Barcellini, qui lui avait été délégué par Monseigneur Sauvage à l'époque aux relations entre juifs et chrétiens dans le diocèse d'Annecy. Le père Barcellini est actuellement aumônier des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, à Annecy, et sa culture immense et sa simplicité font beaucoup pour les relations entre nos deux communautés. Et donc le but de cet après-midi est de contribuer très modestement à une meilleure connaissance réciproque de notre foi, de notre histoire, de nos traditions, et tisser des liens fraternels entre frères cadets et frères aînés dans la foi. Voilà, vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez aux conférenciers dans la limite de leur temps disponible. Et nous nous retrouverons ensuite pour un pot amical, non pas à l'ermitage proprement dit, mais dans la maison qui est au-dessous. Voilà. Et nous avons mis une corbeille à la sortie pour nos conférenciers.
Nous allons d'abord tester le micro, peut-être. De me dire si vous m'entendez bien. En vous remerciant d'être là, nombreux, surtout par ce temps, effectivement, le père Barcellini m'a demandé de commencer en premier parce que je suis la plus ancienne. Alors oui, dans la tradition, je suis la plus ancienne, nous sommes les plus anciens. Les événements de ma jeunesse m'ont amené à m'engager dans le dialogue judéo-chrétien il y a 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y avait, et il y a encore, des relents d'antisémitisme, même après le grand malheur de la Shoah. Je suis née, la guerre était à peine finie. J'ai vécu à Paris, dans un monde laïque, mais l'ignorance de nos mondes religieux et culturels, juifs et chrétiens, était prépondérante. La vie m'a amenée à la rencontre de personnes riches et généreuses, recherchant à connaître l'autre, le tout autre, dans sa différence avec moi, le prochain, celui qui est proche et lointain. J'avais envie de connaître le monde chrétien que j'ignorais et que je craignais. Pourquoi la crainte et même la peur? Parce que tout ce qui s'est vécu pour le monde juif, de malheur, de persécution, de mort, parce que juif dans l'identité. C'est ce que Jules Isaac, au sortir de la guerre, dira. Les miens ont été exterminés par le nazisme parce qu'ils s'appelaient Isaac. Il perdra femme et enfant. Sa lutte sera sa consolation. Il créera l'Amitié judéo-chrétienne de France en 1948. Il sera un inlassable chercheur de dialogue, même avec le pape Pie XII, à qui il demandera des comptes. Oui, le dialogue, il n'y a que cela de vrai pour apprendre à se connaître, se respecter dans les différences et s'aimer en fraternité. N'est-ce pas le merveilleux commandement de Dieu qu'il nous offre ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque je dis Dieu nous l'offre, à nous, juifs, qui répétons cette phrase quotidiennement dans nos prières, mais aussi à vous, chrétiens, en la personne de Jésus, juif lui-même, qui la reprenait inlassablement. Mais pourquoi tant de haine et voire de mépris pour les juifs ? Qu'est-ce qu'un juif ? En hébreu, le mot se dit « Yehudi », qui se traduit par « rendre grâce à Dieu ». Le juif est issu d'un peuple, les Hébreux. Abraham, qui deviendra père des nations, entendra Dieu se révéler, lui parler, environ 17 siècles avant l'ère chrétienne. Il lui demandera de tout quitter, père, mère et pays, pour aller vers une nouvelle terre. Changement de vie, d'éclairage de conscience qu'apporte la parole de Dieu. Il rassemblera un peuple, nous en sommes ses descendants. Une foi, voire une religion, la religion monothéiste qui se fondera, nous en sommes les descendants. Un autre personnage des plus importants, Moïse. Il libérera le peuple hébreu de l'esclavage d'Égypte avec l'aide de Dieu. Il recevra au mont Sinaï les tables de la loi, les 10 commandements ou 10 paroles, qui deviendront universelles. Le judaïsme devient une religion, un mode de vie, grâce à la loi divine révélée 12 siècles avant Jésus. Mais Dieu dit qu'il a choisi son peuple. Il lui donne une terre, et ce peuple accepte sa parole. Nous arrivons au moment crucial de l'élection. Être élu de quelqu'un apporte jalousie et convoitise à l'autre qui n'a pas été choisi. Je crois que c'est une des sources ontologiques de l'antisémitisme. Mais quelle est la signification du mot « élection » ? Lorsque Dieu choisit le peuple hébreu, il lui donne une mission des plus importantes. Faire connaître sa loi, à travers un peuple qui devra être à sa ressemblance, avec une injonction « Soyez saints comme je suis saint ». Et cette injonction est impossible. Mais un devenir pour l'humanité. Quelle responsabilité pour ce petit peuple ! L'élection devient une responsabilité. Dès les premiers siècles, sous Marcion et Constantin, de cette séparation obligatoire des Juifs et des premiers chrétiens, les guerres, les massacres, les conversions forcées, les pogroms en Europe centrale, les difficultés dans les pays d'Afrique ou maghrébins, et j'en passe, seront le lot du malheur d'être juif tout au long des siècles. Cela peut-il s'arrêter ? Oui. Si nous apprenons ensemble, avec nos consciences d'aujourd'hui, nos connaissances possibles à travers tous les livres, les commentaires bibliques et talmudiques, la métahistoire, mais surtout la Bible, dans son intégralité. La Torah, nommée Ancien Testament, Premier Testament, puis les Évangiles, nommés Nouveau Testament. Il y a des paroles à étudier ensemble pour comprendre. Alors nous arrivons au sens de nos rencontres. Elles sont depuis des années une grande richesse et ne cessent de le devenir. Par exemple, 45 groupes de l'amitié judéo-chrétienne existent en France. Mais d'autres organismes jouent ce même rôle de dialoguer. Il se nomme le SIDIC, par exemple, créé par les Sœurs de Sion de Jérusalem. DAVAR, cette association juive et chrétien qui travaille ensemble auprès d'enseignants juifs et chrétiens. Après l'insistance de Jules Isaac d'ouvrir la relation entre les juifs et les chrétiens au sortir de la guerre, un événement sans précédent fera jour. Nostra Aetate, document conciliaire de l'Église catholique, rédigé en 1965, publié par Concile Vatican II. Le père du jardin, très engagé dans le dialogue interreligieux judéo-chrétien, particulièrement, depuis 30 ans, nous dit « Que s'est-il donc passé au Concile ?» Il faut se souvenir que l'élaboration de ce texte précède de la volonté expresse du pape Jean XXIII. Même si la déclaration fut définitivement adopté sous le pontificat de Paul VI. Quelques années plus tard, après le Concile, et en continuité avec le bureau constitué par le cardinal Béat pour les relations avec le judaïsme, le pape Paul VI prit l'initiative de créer une commission pour les relations religieuse avec le judaïsme. Revenons en arrière. C'est durant l'été 1947 que 65 juifs et chrétiens venant de 19 pays différents rassemblent à Selisberg en Suisse pour discuter. Ils se mirent d'accord pour exprimer leur profonde douleur à propos de la Shoah, leur détermination à combattre l'antisémitisme et leur désir d'entretenir des relations plus fortes entre juifs et chrétiens. Ils dénoncèrent l'antisémitisme à la fois comme un péché envers Dieu et l'humanité, et comme un danger pour la civilisation moderne. Afin de partager ces graves préoccupations, ils adressèrent aux Églises un appel rédigé en 10 points, leur demandant de réformer et de renouveler leur compréhension du judaïsme, ainsi que les relations entre le judaïsme et le christianisme. Aujourd'hui, après plus de 60 ans, il y a un nouvel appel à réfléchir sur ces 10 points de Selisberg au sein de l'amitié judéo-chrétienne internationale. Quelques exemples de ces points. Dans l'appel aux chrétiens et aux communautés chrétiennes, par exemple, combattre l'antisémitisme, qu'il soit raciste, religieux ou de toute autre nature. Développer une compréhension théologique du judaïsme qui affirme son intégrité spécifique. Il y a d'autres exemples, bien sûr. Dans l'appel aux Juifs et aux communautés juives, reconnaître l'effort accompli par de nombreuses communautés chrétiennes de la fin du XXe siècle pour réformer leur attitude à l'égard des Juifs. Étudier le Nouveau Testament en incluant des enseignements fondamentaux du christianisme dans des séminaires rabbiniques, dans des écoles, etc. Vous voyez, une grande ouverture. Aujourd'hui, le grand rabbin de France, Gilbert Neim, insiste sur la nécessité de réexaminer l'image du christianisme dans la pédagogie et la culture populaire juive, qui tend toujours à être défensive, voire hostile. Je dirais que ce sont ces vieux démons de la peur ancestrale que tout juif porte en lui et qui remontent inlassablement. Et pourtant, ce dialogue est unique et singulier, parce qu'il se fait entre deux mondes spirituels qui ne sont pas des fractions schismatiques d'une même foi, ni des univers étrangers l'un à l'autre. L'Église ne saurait être étrangère à la foi que porte le Juif. Ce qui les unit, c'est la conviction que l'alliance du Sinaï et que le Décalogue ne sont pas des épisodes éphémères et banals dans l'histoire du salut, mais des moments fondateurs de l'humanité, c'est-à-dire d'une seule famille issue de la volonté créatrice du Dieu unique, qui communiera à l'avenir dans la foi monothéiste. C'est un ami de l'amitié qui écrit cela, M. Marcion, dans la revue Sens sur le dialogue, une revue du mois de mai. Elle est merveilleuse, je vous invite, si vous pouvez, à la lire. Ce qui nous sépare, c'est la doctrine même de l'Alliance. L'Alliance unique et éternelle pour Israël, l'Alliance nouvelle, dans la succession de l'ancienne pour l'Église? Très lourde question. Il faut savoir que pour le juif, la loi, c'est-à-dire la notion de mitzvah ou commandement dans la Torah, cette loi n'est pas rédemptrice, mais fondatrice de toute théologie. Bien d'autres questions, notamment à propos de la personne de Jésus, né juif, mort juif, se posent. La controverse du Moyen-Âge, où chacun se devait d'emporter la conviction et l'adhésion de l'autre en vue de lui faire renier sa foi, ne doit plus exister. Non, ce qui doit exister, c'est cette discussion qui s'appelle en hébreu « malchoket », c'est-à-dire ce lieu où chacun découvre la part de vérité de l'autre dans l'échange et dans la rencontre. C'est le grand rabbin Gilbert Neim qui dit cela. Franz Rosenzweig, grand philosophe juif allemand de la première moitié du XXe siècle, refuse la guerre des alliances entre un judaïsme défendant l'idée d'une seule alliance et un christianisme prétendant proclamer la caducité de l'alliance hébraïque. et son dépassement pour la nouvelle alliance. Rosenzweig propose de reconnaître deux alliances qui ont vu le jour. L'alliance hébraïque qui permet au peuple d'Israël d'être devant Dieu pour l'éternité. L'alliance chrétienne qui ouvre au peuple du monde la voie qui conduit vers Dieu et vers le monothéisme. J'aime cette pensée qui est loin d'être démodée. Au contraire, elle fait son chemin, car même le grand rabbin de France l'a suggéré. Catherine Chalier, philosophe de notre siècle, s'inspirant de Franz Rosenzweig, écrit « Le judaïsme est le foyer veillant sur la flamme qu'est le christianisme. Les flammes rayonnent de par le monde, mais elles ne sont rien sans le foyer qui les supporte. D'autre part, le foyer ne rayonne pas par lui-même. Dieu a besoin des deux. Aujourd'hui, juifs et chrétiens, anciennes et nouvelles générations, devons nous ouvrir au dialogue. Certes, il implique un courage moral, un courage spirituel, un courage intellectuel, le courage de rompre avec les clichés et les stéréotypes du passé à la lumière de l'expérience de la rencontre. La présence de Dieu dans nos vies aide à préserver et à persévérer dans ces chemins de rencontre. Il n'est pas toujours facile de la ressentir. Je voudrais terminer ce que je vous ai exprimé par une petite histoire juive. Et je souhaite vous raconter une célèbre et douce histoire juive d'un grand maître chassidique, le Baal Shem Tov, qui l'enseignait, 18e siècle d'aujourd'hui. Il pleuvait tout autour dans les bois. Un certain jour, les fidèles se réunissaient. Ils allumaient un feu et le rabbin disait une prière et Dieu leur apparaissait. Le rabbin mourut et bientôt on ne sut plus où était la clairière dans le bois. On alluma un feu car on savait encore le jour. On dit la prière et Dieu apparut. Le temps passa, on ne savait plus comment allumer le feu, mais on savait encore le jour et la prière et Dieu apparut. Ensuite, on ne sut plus le jour, ni le lieu, ni les gestes. On disait juste la prière et Dieu apparaissait. Un jour vint où l'on ne sut plus le lieu, ni le jour, ni les gestes, ni les mots exacts de la prière. Mais on savait encore raconter l'histoire de 1000 façons différentes. Et Dieu apparaissait. Merci de votre écoute attentive.
Voilà, vous m'entendez bien, ça va? Très bien. Je reprends un peu ce que nous a dit Eliane, qui a bien résumé le chemin qui s'est fait entre chrétiens et juifs. Je voudrais d'abord reprendre un peu l'histoire. Parce que le thème, c'était chrétiens et juifs, hier et aujourd'hui. Alors, faut que j'approche un peu.
Approchez. Voilà.
Voilà. Je vais faire le contraire. Hein. Très bien. Voilà. Alors, chrétiens et juifs, hier et aujourd'hui. Je ferai d'abord un survol un peu, hein, un panorama de l'histoire jusqu'à nos jours, entre juifs et chrétiens, bien sûr très sommaire, mais dans lequel les attitudes qui se sont vécues entre juifs et chrétiens persévèrent encore aujourd'hui. Hein. Elles restent dans notre inconscient collectif. Nous portons tous en nous un inconscient collectif, et souvent cet inconscient collectif est irrationnel, hein, mais il est marqué par toute l'histoire, notre histoire personnelle, l'histoire d'un peuple, et une histoire collective à laquelle nous participons et dont nous sommes issus. Alors, dans cette première partie historique, donc d'histoire, ensuite nous verrons comment nous sommes appelés maintenant, aujourd'hui, à passer de l'antisémitisme à la découverte du judaïsme. Parce que l'Église, en effet, elle s'est bien levée contre l'antisémitisme, mais à l'heure actuelle, nous passons dans une autre phase, qui est une phase d'ouverture, comme l'a souligné aussi Liane, hein, la découverte du judaïsme, et dans des rapports nouveaux que sont appelés à vivre chrétiens et juifs. Alors, je reprends l'histoire d'abord. Je dirais que tout a commencé, et ça c'est vieux, c'est séculaire ça, par un anti-judaïsme religieux. Et cela date depuis les premiers siècles, depuis Constantin déjà, vous l'avez souligné. Et puis ensuite, je montrais comment tout cela aussi s'est développé à travers les siècles, dans un long processus historico-sociologique, avec des développements multiples à travers les siècles. Et ensuite, la naissance de l'antisémitisme, qui est surtout un phénomène du XIXe siècle. Parce que là, nous touchons davantage l'aspect raciste, entre guillemets, hein, dans lequel, évidemment, c'est une grande erreur, parce que les Juifs, ce n'est pas une race. Mais là, quand on dit antisémitisme, on les met justement dans une race. Voyez, hein. Donc, nous les expliquerons là-dessus. Hein. Voilà. Alors, voilà d'abord ma première partie. Alors, d'abord, un anti-judaïsme à base religieuse. Ça a marqué l'histoire, j'allais dire qu'elle marque l'histoire jusqu'à Vatican II. On a parlé de Nostra Aetate. Nostra Aetate a fait basculer la manière religieuse des chrétiens, des catholiques, je parle pour les catholiques, hein, de voir les juifs. Alors d'abord, il y a la doctrine augustinienne qui a beaucoup marqué la théologie, la manière de voir, saint Augustin. Qu'est-ce qu'il disait saint Augustin ? Il disait, nous avons besoin des juifs comme témoins. Entendons-nous, hein. Parce que le peuple juif se présente comme le peuple témoin. Et témoin de quoi ? Témoin de la mort du Christ. Témoin qu'ils ont condamné le Christ. Témoin qu'ils ont mis le Christ à mort. Et on a besoin que les juifs subsistent et continuent dans l'histoire, parce que s'ils n'étaient pas là, ils ne nous rappelleraient pas que ce peuple est déicide et qu'il a condamné Dieu à mort. Et cette idée du peuple déicide, elle va faire son chemin et durera, et on n'en est pas encore sorti, hein, dans l'esprit des chrétiens. Ça veut dire qu'à travers les siècles, cela a duré. Et les Juifs reconnaissent justement, plutôt les Juifs sont vus comme ce peuple, j'allais dire, il faut le dire entre guillemets, mais c'est ce qu'ils pensaient, hein, maudit par Dieu. On partait de l'Évangile, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, donc c'était un peuple maudit par Dieu. Et là, on allait très loin. Et toute la légende du Juif errant, n'est-ce pas, était justement liée à cette malédiction de Dieu. Ce peuple qui n'a pas de terre, ce peuple qui a été chassé de sa terre par les Romains, ce peuple qui est toujours en voyage, qui n'a pas de place dans ce monde, ça veut dire que ce peuple-là porte la malédiction de Dieu sur lui. Ça, c'est des idées qui sont encore récentes. Il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, hein, que cette légende du Juif errant a fait beaucoup, a beaucoup marqué la vie des gens. Bon. Ensuite, il y a eu un long processus historico-sociologique. Ben, les Juifs, c'était une minorité, petite minorité. Et il faut bien nous mettre aussi dans la situation politique de l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, nous savons, et c'est pas longtemps que nous en sommes sortis, en Occident du moins, que la religion du peuple doit être la religion du roi. Et cela a marqué l'histoire. Hein. Vous savez, c'est pas si longtemps encore. Hein. Elle nous marque encore. Oui. N'oublions pas que s'il y a des pays protestants et des pays catholiques, c'est parce qu'il y avait des princes protestants qui ont voté pour le protestantisme et des princes catholiques. Nous étions aussi très marqués par ça, même Saint-François de Sales, qui est pourtant un saint, mais très marqué par l'époque aussi. Quand il va dans le Chablais pour convertir les calvinistes, évidemment, c'est les remettre dans le giron de l'Église catholique, mais c'était surtout, pas surtout, en même temps, redonner le Chablais au duc du Piémont. Cuius regio, cuius religio, on disait à l'époque. Donc ça veut dire qu'on était très marqué par cela. Et donc les Juifs étaient nécessairement à part, hein, puisqu'ils n'entraient pas dans la religion commune. Donc, ils ne faisaient pas partie de la nation, ils ne faisaient pas partie de la nationalité. Je dis ça, c'est pas pour rien. Parce que c'est ce qui va engendrer l'antisémitisme, qui d'ailleurs sera toujours lié au nationalisme. Tous les mouvements antisémitistes sont des mouvements nationalistes. Je dis ça, mais il y a aussi eu des éclaircies à l'époque, hein. Je pense au royaume de Grenade, où chrétiens, juifs et musulmans vivaient bien ensemble. Je pense aux penseurs de l'époque, Maïmonide chez les juifs, Averroès et Avicenne chez les musulmans, et qui avaient de l'influence sur la pensée chrétienne de l'époque, puisque saint Thomas d'Aquin cite aussi Averroès et Maïmonide. Donc, il y avait un échange de pensées. Voilà. Et aussi, cet échange de pensées avait de l'influence. Il ne faut pas oublier que c'est Averroès qui a amené la traduction d'Aristote en Occident. Elle l'a fait connaître en grec. Donc, c'est un musulman, c'est un arabe. Mais cela n'a pas duré. Ça n'a pas duré parce qu'il y a eu les croisades. Et puisqu'on a voulu encore le nationalisme revenir, c'est Isabelle d'Aragon, on entend en parler, Ferdinand d'Aragon par la suite, qui veut tous convertir les gens au catholicisme. Et donc c'est là où les Juifs sont partis dans le Maghreb, sont partis en Afrique du Nord, ce qui a créé le courant des Juifs séfarades. Et puis il y avait des autres qui ont été convertis de force, qui ont été les juifs
les Maranes,
c'est ça, qui existent encore aujourd'hui et qui ont vécu cette période. Donc là, mais il y a eu quand même des périodes d'éclaircie. Je pense en France à quelqu'un dont on a beaucoup parlé dans nos amitiés judéo-chrétiennes, Rachid de Troyes, qui était un grand connaisseur de l'hébreu. Et les théologiens de l'époque faisaient appel à lui pour mieux connaître la Bible, et donc mieux connaître les racines hébraïques de la Bible. Et pour eux, c'était important de connaître donc la Bible dans son fondement, et la vérité, justement, de l'Écriture. Et là, c'est des périodes qui ont duré un temps, dans le XIIIe siècle, mais à la fin du Moyen-Âge, cela a disparu. Et là, nous arrivons à la période de l'antisémitisme, mais vous voyez que tout se tient aussi, hein. L'antijudaïsme crée l'antisémitisme. L'un et l'autre sont très liés. Et l'antisémitisme, qui va se développer surtout au XIXe siècle, si vous voulez, le mot de sémite a été inventé par un Allemand, et qu'on désignait les peuples habitant les territoires qui s'étendent de la Mésopotamie à l'Asie. Et puis en 1879, le terme antisémite, qui a été d'ailleurs forgé par un publiciste allemand, Michelin Niard. Donc, on va là se trouver en face d'un mouvement antisémite, qui est très lié d'ailleurs à l'identité nationale, puisqu'on veut dire que les Juifs ne font pas partie de l'identité nationale. Pourtant, on avait passé le siècle des Lumières, on avait passé la Révolution, qui avait accordé en 1793 aux Juifs et aux protestants, parce que les protestants aussi en France n'y avaient pas à l'époque, les frères protestants qui sont là le savent, n'étaient pas reconnus comme des citoyens à part entière, du moins qui sont reconnus. Et en même temps surgit, voilà, au XIXe siècle, ce mouvement antisémite avec les courants nationalistes qui naissaient à l'époque. Alors, ces mouvements ont beaucoup marqué l'Église catholique elle-même. Il ne faut pas qu'on l'oublie, cela. Et qu'un journal comme La Croix, à l'époque, affichait son anti-judaïsme. Et quand il y a eu les fameuses affaires Dreyfus, dont vous avez entendu parler, bien sûr, condamné comme traître et comme espion, Dreyfus, La Croix était anti-Dreyfusard. Et on condamnait Dreyfus parce que juif. Et de là va naître toute cette affaire autour de l'affaire Dreyfus, comme aussi autour d'autres affaires, Savisky ou autres, des juifs, l'idée d'un complot juif, d'une espèce de force juive qui était dans la société et qui portait sur les juifs un certain regard. Donc là, c'est ce peuple qu'on lie aussi avec leur société secrète, avec les francs-maçons aussi. On voyait juifs et francs-maçons ensemble. Je me souviens, moi, étant enfant, à Annemasse, pendant la guerre, quand il y avait les lois de 1940 de Vichy, il y avait des inscriptions « Abat les francs-maçons, valets des juifs ». C'était lié, voyez, c'est-à-dire on était contre tout ce qui était des minorités et on faisait monter autour de ces minorités des forces secrètes, des lobbies cachés qui étaient des dangers pour la société. N'oublions pas que les Juifs pourtant étaient à l'époque 0,3% de la population française. Ils étaient citoyens français à part entière, bien sûr, depuis la Révolution, mais ils demeuraient encore, si vous voulez, en dehors. Et là, il y a tous ces courants anti-juifs dont vous avez entendu parler, Roger Poissilac, Ferdinand Céline, la Ligue française qui va se faire avec Xavier Vallat, Philippe Henriot, qui sera élu député de Bordeaux, et qui seront les éléments importants de l'anti-judaïsme l'antisémitisme, bien sûr, au moment du gouvernement de Vichy. Mais tout cela, il ne faut pas l'oublier, que c'était marqué par un esprit, c'est-à-dire, ils se disaient chrétiens, hein, ces gens-là. Parce qu'au fond, c'était défendre le christianisme contre le danger du judaïsme. Voilà. Alors, il y a quand même, à l'époque, alors va naître, déjà, une démarche chrétienne avant-guerre, hein, avec Francisque Gay, le journal L'Aube, La vie spirituelle, La vie intellectuelle, la revue Esprit, avec Frédéric Mounier, qui, eux, vont, justement, se lever contre tout cela et lutter contre cet antisémitisme. Alors, à ce moment-là, nous verrons quand même le magistère catholique réagir. Il y aura d'abord ce grand mouvement dont vous avez entendu parler, bien sûr, et qu'on connaisse dans l'histoire, qui était l'Action française, avec Charles Maurras. Et Charles Maurras était fondamentalement anti-juif, bien sûr, comme il était anti-démocrate, et disant que tous les maux qui venaient dans la société venaient de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Et ce mouvement n'est pas mort encore. Il ne faut pas oublier que même chez les catholiques intégristes, Mgr Lefebvre, qui était donc le fondateur de la fraternité Saint-Pédis, et qui avait récusé... Pardon, plus près, voilà, vous m'entendez mieux, très bien. Très bien, voilà. Qui avait récusé, justement, les documents du Concile, en particulier Nostra Aetate, hein. C'est-à-dire le dialogue interreligieux, comme aussi il récusera les rapports de l'Église dans le monde, comme il récusera aussi le décret sur la liberté de conscience qu'avait fait le Concile Vatican. Alors, à partir de là, ils disent les mots viennent de la Révolution française. C'est une Église qui a été imprégnée par les mots de la Révolution française, égalité, fraternité, etc. Liberté. C'est-à-dire, c'est le libéralisme de la pensée. Et n'oublions pas non plus qu'à l'époque, l'Église a été marquée par l'Action française. Et il y avait des évêques qui étaient Action française. Et qu'à l'époque, il y avait, face à la Révolution française, des prédications des curés qui étaient les droits de Dieu face aux droits de l'homme. C'était donc tout un courant qui existait à l'époque. Et donc, l'antijudaïsme était au cœur de ce courant. Mais voilà, il y a Pie XI qui vient et qui, une des premières choses qu'il fait, condamnation de l'Action française en 1937. Pardon, en 1927. Pardon. Et ensuite, il va recevoir des délégations au Vatican. Et là, on sentait dans le pays allemand, avec Hitler, bien sûr, la montée du nazisme et donc de l'antisémitisme, très fort. Oui. Et à ce moment-là, il a eu cette phrase, qui a été une phrase qui est restée dans la pensée, qui lui a valu la haine des dictateurs, hein, des dictateurs allemands. Ça veut dire, il a dit, nous sommes tous spirituellement des sémites. Ça a été une phrase très forte à l'époque. Et que ensuite, il s'était élevé aussi que contre cette haine de peuple qui s'appelle l'antisémitisme et qu'il n'est pas permis à un peuple chrétien aujourd'hui d'être antisémite. Et puis, en 1937, il faut bien qu'on le dise, il y a cette fameuse encyclique qu'il avait écrite en allemand, « Mit brennender Sorgen », au milieu des angoisses que nous sommes en train de traverser, qui lui avait été demandé par les évêques allemands à cause de la persécution qui sévissait en Allemagne par le nazisme, et cette encyclique qui se lève justement contre toute antisémitisme Et derrière l'antisémitisme, la destruction des juifs, c'était aussi ce que prévoyait Pie XI, la destruction des chrétiens. Parce que c'était le retour, non plus, c'était plus le dieu de la Bible, hein, mais c'était le dieu celtique, hein, le dieu qui venait, qui était contraire justement à tout ce qui venait du monde sémite, voilà, de toute civilisation qui était judéo-chrétienne. Ça a failli rompre toutes les relations entre le Vatican et l'Allemagne, mais Hitler n'a pas osé, même là, rompre les relations diplomatiques. Voilà donc, ça prépare tout cela. Hein. Puis alors, nous savons, mais on n'a pas pu, il n'a pas pu l'écrire jusqu'au bout, il avait préparé une encyclique contre, justement, l'antisémitisme. Une encyclique qui devait paraître, mais dont on a eu les documents préparatoires, faits par deux jésuites qui ont préparé tous ces documents. On les a trouvés dans le tiroir, mais on ne sait pas pourquoi. Son successeur ne les a pas repris. Voilà. Et pourquoi c'est resté là sur place. Voilà. Mais on a quand même actuellement les documents des ébauches de cette encyclique. Alors là, nous passons maintenant de l'antisémitisme à la découverte du judaïsme. Moi, je pense que cela a commencé avec les années 40. Vous savez que le premier des décrets de Vichy a été d'enlever aux Juifs leur citoyenneté à part entière. Leur citoyenneté à part entière, hein, que les Juifs ne pouvaient être plus citoyens à part entière, pouvaient être fonctionnaires, etc. Donc déjà, quelque chose qui touchait la citoyenneté. Il y avait un nouveau statut des Juifs, donc qui était, encore, je vous ai peut-être connu quelques-uns parmi vous, hein, cette période. C'est un peu surprenant, mais il y a eu un grand silence là-dessus. À part deux, trois évêques qui ont dit quelque chose, même d'autres évêques l'ont approuvé, étaient d'accord. L'évêque de Valence, l'évêque de Chambéry à l'époque, ont été d'accord avec ça. Ça prouve que cette idée de l'anti-judaïsme, hein, était encore assez fondée dans l'esprit des gens. Alors là, nous voyons quand même quelque chose de nouveau qui va naître. C'est tout ce mouvement, et là, Dieu sait si ce qui est lié à Hachem, hein, la médaille des justes, hein, a été donnée à une quantité de prêtres et de religieux, hein, qui ont justement caché les Juifs et qui ont sauvé beaucoup de milliers de Juifs, hein, en France. Je ne sais pas combien, si Mme Brousse était là, pourrait dire combien de prêtres et de religieux ont eu la médaille des justes en Haute-Savoie. Il y en a quand même un certain nombre, hein, voyez. Et à ce moment-là, il y a eu des liens nouveaux qui se sont créés entre chrétiens et juifs. Vraiment sur le terrain. Vraiment là, d'homme à homme. Hein. Vraiment là, des positions au nom de la dignité et de la personne humaine. C'était surtout au nom de ça, hein. Vous voyez, par exemple, il y a des lettres, vous avez entendu parler, de celle du cardinal Saliège, archevêque de Toulouse. Je ne peux pas vous la lire, elle serait très intéressante à lire, mais on n'a pas le temps. Cardinal Saliège, qui était un homme paralysé, il n'arrivait pas à parler, hein, tellement il était paralysé. Il parlait le Saliège, on disait, hein, il fallait un traducteur à côté de lui. Eh bien, qui a écrit une lettre en 1942, s'élevant contre cette déportation.
Plus fort encore pour voilà. Parler.
Voilà, s'élevant encore contre cette déportation, ça va mieux, voilà, faut le dire, hein, voilà. Si bien que Jean Quitton, écrivant sa vie, a pu dire, celui qui n'avait plus l'usage de la parole a été la voix. Celui qui a été la voix de tous ces hommes. D'ailleurs, cette lettre avait pour titre pour le respect de la dignité humaine. C'était pour l'homme. Les juifs sont des hommes. Un homme juif est un homme, une femme juive est une femme. Et d'ailleurs, il commence sa lettre par cette phrase de Jérémie, « Et une clameur monta de Jérusalem », qui justement rappelait que ce monde juif, quand il avait été déporté en Babylonie, il reprenait cela dans le sens biblique. Et là, cette lettre, écrite en 42, à lire dans toutes les paroisses du diocèse, sans commentaire. Sa Liège n'a pas été déporté parce qu'il était paralysé. Mais il y a eu d'autres évêques aussi, disons, qui sont allés en déportation. Théas à Montauban, Moussaron à Albi, l'évêque de Clermont-Ferrand à l'époque, Piguet. Donc ça a été déjà une force en avant de l'Église. Et puis, sans compter, évidemment, tout le travail des cahiers de témoignages chrétiens, du père Chaillère, des théologiens comme de Lubac, etc. Et c'est ces théologiens qui, à ce moment-là, très engagés dans cette résistance, ont repensé les choses. On lutte contre l'antisémitisme, mais ce sont des juifs. Et là, on est le judaïsme. Qu'est-il ? Voilà. Qu'est-il pour nous ? Et c'est à ce moment-là que, théologiquement, s'est ouverte une réflexion sur le sens du judaïsme et les relations entre chrétiens et juifs. Alors je pense à cette partie maintenant des appels, hein, puisque là il y a les amitiés judo-chrétiennes, il y a beaucoup de travail qui se fait, la revue Sens qui est à mon avis remarquable, c'est une des dernières dont je renoncerai à m'abonner, parce qu'elle nous apporte une réflexion remarquable sur les relations chrétiens et juifs. Je veux simplement vous apporter quelques aspects qui me semblent importants. D'abord, l'Église a besoin de retrouver ses racines hébraïques. Ces racines hébraïques qui lui donnent l'authenticité à la Bible et à l'Écriture. Déjà, si au Moyen-Âge, les scolastiques voulaient être en contact avec Rabbi de Troyes ou d'autres rabbins dans les analyses de la traduction de la Bible, c'est parce que la Bible hébraïque était importante. Et d'ailleurs, quand j'étais au séminaire, il y avait déjà une nouvelle traduction du bréviaire qui était en latin, mais qui ne partait plus simplement de la traduction grecque, mais des sources hébraïques. Il faut dire aussi qu'on connaissait assez mal l'hébreu encore à l'époque, hein. Et que dans l'Église, il y avait l'exégèse était très peu enseignée. Moi, j'étais séminariste en 1946. Il y a eu au séminaire un premier professeur d'exégèse en 1945. Ce qui veut dire que les prêtres n'avaient pas été formés à l'exégèse. Et qu'on faisait une histoire sainte, hein, mais pas de l'écriture sainte. On connaissait bien l'histoire sainte, mais on ne connaissait pas le sens profond de l'écriture sainte. Alors à ce moment-là, on redécouvre, voyez, ces liens dont vous avez parlé tout à l'heure entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il n'y a pas un Ancien Testament et un Nouveau Testament. Il y a les Écritures. Et tout cela ne fait qu'un. Et que pour nous chrétiens, Jésus est l'accomplissement de l'Écriture. Mais comme vous disiez tout à l'heure aussi, nous découvrons à ce moment-là que l'Écriture, la Bible, l'Ancien Testament, entre guillemets, a une place importante. La preuve, c'est que le Concile l'a introduit dans les lectures liturgiques. La première lecture à la messe est toujours une lecture de l'Ancien Testament. Et ils l'ont introduit en disant, faisons attention dans la manière dont nous regardons les Écritures. Parce que nous les voyons souvent comme des figures qui préparent. Comprenez, le passage de la mer Rouge, ça prépare la Pâque du Christ. Oui. On les lit comme des figures, et non pas comme des événements fondateurs d'un peuple. Et là, c'est une nouvelle manière de voir les choses. C'est-à-dire, on était sorti de l'histoire. Voilà. On était sorti d'un Dieu qui est au cœur de l'histoire, qui marche avec les hommes. Et le Concile Vatican II, dans ses rapports Église et monde, insistera là-dessus en disant « L'Église naît du Père, mais elle marche, elle fait route avec l'humanité, avec l'histoire de l'humanité. » Or, toute la Bible, c'est justement le Dieu dans l'histoire, et qui est avec l'homme dans l'histoire. Et là, entre chrétiens et juifs, nous nous rejoignons absolument en profondeur. Et là, je dois vous dire que ce que Jean-Paul II a fait aussi beaucoup avancer les choses. Vous le savez, c'est lui qui va faire la visite à la synagogue de Rome. Son geste qu'il a fait au mur de Jérusalem, avec la prière, mettant la prière, prenant au sérieux justement toute cette prière qui a beaucoup touché les Juifs à l'époque. Et puis aussi, il faut le dire, la reconnaissance de l'État d'Israël par le Vatican, qui hésitait à l'époque, tout en reconnaissant aussi en même temps le droit à un État palestinien. Mais là, c'est toute la découverte aussi que nous avons à faire, pourquoi les Juifs ont besoin d'une terre. Et que là, c'est fondamental. Il ne faut pas oublier que le sionisme est né après tous les pogroms qui se sont faits en Europe de l'Est et un peu partout. Et qu'à ce moment-là, il faut une terre pour que justement ce peuple soit reconnu, soyons reconnus comme peuple. Alors n'abusons pas tous nos arguments. Jusqu'en 1871, le pape était souverain et avait une terre. Il y avait les états pontificaux. Et encore maintenant, il est souverain d'un état indépendant, même s'il a 320 hectares. C'était cette liberté, c'est-à-dire pour être véritablement soi-même. Voilà. Et là, il y en a tout un article du grand rabbin qui dit « Cette reconnaissance de la terre pour Israël est extrêmement importante. » En disant que la terre a tout un sens au niveau de la Bible. Je crois que je l'ai dit souvent, dans la Bible, il n'y a pas le mot Terre Sainte. C'est les chrétiens qui ont inventé le mot Terre Sainte. Dans la Bible, c'est la terre sanctifiée, c'est-à-dire elle est terre, elle est sainte que si les hommes qui sont là sont saints et vivent l'alliance avec Dieu. Elle n'est jamais une terre acquise, elle est toujours une terre promise. Et toute la Bible montre, quand Israël est emmené en déportation, il dit c'est vrai, on a cru que cette terre était à nous. Alors c'est une terre qui est là comme signe de la promesse au milieu des nations. Cela, nous avons besoin aussi de le comprendre et de le redécouvrir. Là aussi, je voudrais dire comment, pour moi-même, cette découverte de nos racines hébraïques m'a beaucoup apporté. Et beaucoup apporté en tant que prêtre de l'Église catholique. Alors, si nous avons le temps, mais je vous ai quelques petits points sur lesquels je voudrais insister. Un des premiers points que j'ai découvert, c'est d'abord le mot bénédiction, la beraka.
Bracha.
Nous, la bénédiction, nous en sommes souvent restés au moment païen. On bénit une voiture. On bénit pas une voiture. On bénit la table. Continuez à bénir la table. On ne bénit pas la table. Dans la Bible, on ne bénit pas la table. On ne bénit pas les choses. Même il y a des traductions qui disent Jésus prit le pain, il le bénit. Heureusement, dans la messe, maintenant, on a changé. Il rendit grâce, on dit. Et non, dans la Bible, il prononça la prière de bénédiction. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que ces choses que j'ai, je dois les vivre dans l'alliance avec Dieu. La bénédiction, ça veut dire l'alliance avec la création. L'alliance avec tout ce que je fais, tout mon travail, tout ce que je fais. Et là, je le vis dans l'alliance avec Dieu et avec les frères. Ce pain, est don de Dieu. Mais ce pain, c'est mon travail. Et ce pain, c'est le pain à partager avec les frères. Et c'est cela la bénédiction. C'est cela l'alliance avec Dieu. Alors là, j'y repense. Mais vous voyez, l'Église a quand même conservé. Prenez à l'offertoire, à la messe, mais on ne l'entend pas parce qu'il y a toujours l'orgue ou des chants. Hein. Voilà. C'est-à-dire, si vous souvenez les prières de l'offertoire, tu es béni, Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes ce pain, don de Dieu, puis en même temps, fruit de la terre et du travail des hommes. Et nous disons, nous te le présentons. Disons pas, nous te l'offrons. Parce que offérer, c'est l'influence romaine, je vais dire, hein, qui s'est introduite dans l'Église. Hein. En hébreu, c'est korban, c'est-à-dire reconnaître la présence. Nous disons, te le présentons, nous reconnaissons ta présence, il deviendra le pain de la vie. Ce pain, vu comme don de Dieu, mais qui est le fruit de ma terre et de mon travail, devient le pain de la vie que si je reconnais cette présence de Dieu comme alliance au cœur de ce que je vis. Ben, je découvre ça, moi, de plus en plus. Et tard, un peu, hein, vous voyez, dans les racines hébraïques. Oui. Je pense aussi à d'autres mots. Je pense au mot shalom, la paix. Dieu sait si nous nous donnons la paix. Hein. La paix soit avec vous. Mais la paix, shalom, en hébreu, ça veut dire grandir, atteindre son sommet, son accomplissement. Et que lorsque le Christ nous dit que la paix soit avec vous, que vous soyez dans votre plein accomplissement. Souhaiter la paix à l'autre, c'est vivre ce plein accomplissement qui ne peut se faire, bien sûr, que dans l'amour fraternel, que dans la communion. Je pense au mot providence. Dieu sait si on l'emploie hein, dans l'autre mot, dans notre vocabulaire chrétien. Or, le mot providence dans la Bible n'existe pas. Dans la Bible hébraïque, on le voit qu'une fois dans la traduction des Septante, qui a été la traduction de la Bible hébraïque en grec, hein, au IIIe siècle avant Christ, sous l'influence grecque, qu'une fois dans le livre de la sagesse, c'est un mot grec, mais autrement non, pourquoi? Parce que pour l'hébreu, bien Dieu est toujours avec nous. Il nous accompagne continuellement. On n'a pas besoin de dire un mot pour dire que Dieu est avec nous. Il est toujours avec nous. Alors nous voyons encore cette intervention de Dieu. Hein. Et ça, il faut laisser ça souvent aux légendes dorées de Witsa. Hein. C'est pas toujours...
Plus fort, voilà. Père.
Voilà. Alors, je pense que là, il y a un certain nombre de choses. Je dis ça pour vous dire comment l'Église qui retrouve ses racines hébraïques retrouve aussi ce qu'elle est elle-même, ce qu'elle est elle-même dans le Christ, qui, lui, est l'Évangile, s'est développé justement dans cette culture. Alors, je veux dire par là que maintenant, on peut voir le chemin dans lequel on peut avancer. Hein, que chrétiens et juifs sont liés au niveau même de leur propre identité. Et c'est Jean-Paul II qui disait à la grande synagogue de Rome en 1986, hein, quand il est allé à Rome, à la synagogue, pardon, il disait « La religion juive ne nous est pas extrinsèque, mais en un certain sens intrinsèque à notre religion. Nous avons donc à son égard un rapport que nous n'avons avec aucune autre religion. Quand nous disons le dialogue chrétien et juif, ce n'est pas simplement qu'un dialogue interreligieux à travers d'autres religions. Le dialogue chrétien et juif, ça fait partie de l'être même de l'Église. Il leur disait, vous êtes nos frères préférés, et dans un certain sens, on pourrait dire nos frères aînés. Cela, justement, n'a rien de nouveau. Ça faisait partie de ce que disait déjà saint Paul aux Romains, parce qu'il s'adressait à des chrétiens qui n'étaient pas juifs, pas issus du judaïsme. Et il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas faire l'évangélisation sans l'histoire d'Israël. Et qu'il fallait, pour évangéliser le monde grec, qui ne connaissait pas l'Écriture sainte, qui ne connaissait pas la promesse de Dieu, il fallait, avec eux, donc, refaire l'histoire sainte, la promesse de Dieu et l'Écriture sainte. Et ces chrétiens, issus, j'allais dire, du paganisme, entre guillemets, c'est pas un mot qui me plaît, parce que païen, c'est venu après, et issus de la culture grecque, qui n'avaient pas de culture juive, avaient un certain mépris pour les juifs. Et Paul, qui était un pharisien pourtant, formé dans les pharisiens, il disait, comment vous ne faites pas le fier, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte, dans l'épître aux Romains. Oui. Donc, pendant des siècles, le christianisme vit, mais il ne faut jamais qu'il oublie qu'il est greffé sur cet arbre fondamental, sur cette racine qui est la racine juive. Et d'ailleurs, Jésus dira à la Samaritaine, le salut vient des Juifs, dans l'évangile de saint Jean. Voilà, donc, je comprends là, à ce moment-là, cet frère du rabbi Ashkenazi, qui dit, nous ne sommes même pas des frères séparés, car nous ne nous sommes jamais rencontrés. Et là, nous sommes appelés maintenant à nous rencontrer. Et ce que nous faisons dans ces rencontres sont extrêmement riches pour l'Église elle-même, pour le christianisme, mais aussi les juifs le disent, et nous voyons dans la revue Sens, tout ce que nous apporte aussi pour le judaïsme. Alors nous avons encore, bien sûr, nous vivons là le mystère du projet de Dieu, le mystère du dessein de Dieu, que déjà, dont parlait saint Paul dans l'épître aux Romains. Parce qu'il disait bien, Israël, c'est quand même le peuple de la promesse, c'est le peuple de l'Alliance, c'est le peuple des prophètes, et c'est le peuple qui, pour nous, chrétiens, a préparé le Christ. Donc, c'est très important que nous nous retrouvions. Et là, alors, j'ouvre un autre chapitre, mais je vais m'arrêter bientôt. Je vais dire, c'est la vocation permanente du peuple juif. Si le peuple juif existe, c'est pas simplement pour nous comme témoins du passé. C'est là que nous avons besoin d'approfondir encore les choses. Parce qu'on risque de dire, c'est nos frères aînés. C'est autrefois. Ils éclairent notre histoire présente comme le passé, des fois, éclaire le présent de nos vies. Non. Ils existent. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'alliance que Dieu a avec Israël, c'est une alliance qui n'a jamais été rompue. Dieu n'est pas celui qui rompt son alliance. Dieu sait si dans la Bible, Dieu parle de cette fidélité à Israël. C'est toute une fidélité. Et Dieu reste fidèle à Israël, il ne peut pas l'abandonner, ce n'est pas possible. Alors nous avons besoin de retrouver maintenant le sens de cette vocation permanente du peuple juif. Car que signifie pour nous chrétiens cette alliance permanente, cette alliance qui n'est pas supprimée, et que pour nous, nous avons fait, vous vous souvenez, à Drancy, la repentance pour tout ce qui s'est fait pendant la période de Vichy. Je ferai une différence entre repentance et repentir. Repentir, ça nous ouvre sur l'avenir. La repentance, on regrette le passé, Le repentir, c'est un avenir à construire. Donc nous sommes maintenant dans un avenir à construire. Gars, chrétiens et juifs, il ne faut jamais que nous l'oublions, nous sommes le peuple de la promesse. La Bible est essentiellement l'histoire d'Israël, l'histoire de la promesse de Dieu. Or, cette promesse est là, toujours. Hein. Et chrétiens et juifs, nous sommes tournés vers la promesse. Nous qui la vivons dans le Christ, ben, la vivent aussi. Hein. Je lisais l'autre jour, je ne sais pas où, où un rabbi disait, quand tu paraîtras devant Dieu, qu'est-ce qu'il va te demander hein? Qu'est-ce que tu trouveras là-bas? Et alors, le rabbi disait, n'oublie pas que ce qui sera le plus important pour toi, c'est d'avoir cru en la promesse. C'est d'avoir gardé l'espérance. Et toute l'histoire d'Israël, c'est un peuple juif qui est toujours appelé à renaître à l'espérance, quoi qu'il arrive. N'oublions pas que la déportation en Babylonie a été un grand moment de renouveau pour le peuple, avec les prophètes. Que le Nouvel Alliance, ce n'est pas les chrétiens qui l'ont inventé, c'est les prophètes qui l'ont inventé. Vous êtes maintenant, je mettrai au-dedans de leur cœur une alliance nouvelle. Donc c'est à ce renouveau de l'alliance qui est en train de se faire et que, peuple, chrétien et juif, nous sommes appelés à être les hommes de l'espérance, ensemble, plus que jamais, pour notre temps. Et là, on ne peut l'être que si ensemble nous sommes fidèles à ce Dieu d'Israël, à ce Dieu de la Bible, qui pour nous aussi est le Dieu de Jésus-Christ, pour nous chrétiens, le Dieu pour lequel il n'y a qu'un seul sacré, c'est l'homme. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est déjà les prophètes qui le disaient. Souvenez-vous, chapitre 58 d'Isaïe, quand les gens jeûnent et ils vont au temple, parce qu'il y a les Assyriens qui vont arriver, et on a peur. Hein. Pendant les guerres, on fait comme ça. Hein. En 40, on est bien allé, même les non-croyants, à Notre-Dame, hein, pour que la victoire puisse se faire, qu'on ne soit pas renvoyé. Et alors, on jeûnait à ce moment-là, hein, pour attirer la bienveillance de Dieu. Mais le prophète dit, c'est pas ça, hein. Le jeûne que j'aime, c'est délivrer les chaînes injustes. C'est donner manger à ceux qui ont faim. C'est vêtir celui qui n'a pas de vêtements. C'est d'accueillir l'étranger. Voilà le jeûne qui j'aime. Alors, ma lumière, ma gloire sera sur toi. Ta nuit brillera comme soleil de midi. Et Jésus reprendra la même chose au chapitre 25 de Matthieu. Où était le royaume? Il est là. Dans l'amour que tu as eu pour ton frère, j'avais faim, m'avait donné à manger. C'est exactement les mêmes termes, hein, il reprend. Hein, d'ailleurs, je crois que cette description, il faudrait que je vérifie, est tirée elle-même d'une présentation qui est faite de la Kabbale sur la venue de la fin des temps. Donc nous sommes appelés dans ce messianisme qui est le secret de Dieu. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Même moi je ne le sais pas, mon père seul le sait. C'est cette maturation de l'histoire. Les chrétiens et juifs, nous marchons ensemble, justement, dans cette grande espérance. Et je pense que ce dialogue, cet échange, cette amitié, je dis bien amitié entre guillemets, parce que je la vis cette amitié, hein, comme ça, le type chrétien. Cette amitié prépare justement cette grande espérance, et c'est ça dont nous sommes appelés à être témoins, juifs et chrétiens. Thank you.